Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La preuve les morts nous parle de Stefan Alix est un récit d'enquête à la frontière du documentaire et de l'espiritualité publié par HarperCollins France en 2025. Journaliste et fondateur de l'INRES, Alix poursuit ici un objectif ambitieux examiné, avec une posture se voulant rigoureuse. La possibilité d'une communication entre vivants et défunts. Le point de départ est une affaire tragique concernant Aurélie, jeune femme décédée en 2010, dont la photographie est présentée à plusieurs praticiens affirmant percevoir des informations au-delà des données ordinaires, sans révéler au préalable des éléments biographiques. L'auteur recueille leurs impressions, puis confronte ses déclarations à ce qui est connu du dossier et aux témoignages disponibles. Le livre combine une narration émotionnelle centrée sur le destin d'Aurélie et une démarche d'analyse destinée à évaluer la portée de ce type de résultat. Il s'adresse autant aux lecteurs curieux du paranormal que ceux qui cherchent un questionnement structuré sur la mort et la conscience. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enquête cadrée par un protocole simple. Le cœur du livre repose sur un dispositif volontairement dépouillé, une photographie d'une jeune femme décédée est montrée à plusieurs intervenants, décrits comme médium, voyant, ainsi qu'un mentaliste. L'intention affichée est de limiter les informations de contexte afin de réduire les effets de suggestion et de vérifier si des éléments précis peuvent émerger sans indication. Préalable. Cette simplicité sert un double but. D'une part, elle rend l'expérience lisible par le grand public qui peut comprendre ce qui a été donné ou non aux participants. D'autre part, elle place l'auteur en position d'arbitre narratif, chargé de rapporter les propos, de clarifier les conditions de recueil et de discuter la force des correspondances observées. Le livre s'intéresse donc moins à un discours théorique sur la médiumnité que la mise en situation et à la comparaison des résultats. Il propose une forme de test à hauteur d'homme qui cherche à éclairer le lecteur sur ce que ce type de consultation peut produire et sur la difficulté de distinguer intuition, interprétation et information vérifiable. Deuxièmement, le récit d'Aurélie dimension humaine et éthique. La preuve ne se limite pas à un exercice d'expertise, le livre donne une place importante au destin d'Aurélie et à la réalité violente de sa mort. Présentée comme un féminicide suivi d'un suicide. Cette encre narrative joue un rôle essentiel car elle empêche le sujet de rester abstrait. L'expérience menée par l'auteur prend alors une dimension morale. Il ne s'agit pas seulement de trancher un débat sur l'après-vie, mais aussi d'approcher une histoire familiale et un traumatisme. Le livre soulève implicitement des questions d'éthique, notamment sur la manière de parler d'une victime, de protéger l'intimité des proches et de ne pas transformer un drame en simple prétexte expérimental, en donnant du poids à la biographie et aux circonstances. Alix cherche aussi à mesurer ce que la médiumnité prétend apporter dans des situations de deuil apaisement, sens ou message qui réorganise le récit de la perte. Cette part du livre est souvent reçue comme la plus touchante, car elle confronte le lecteur à la douleur réelle derrière le questionnement métaphysique. Troisièmement, comparer des perceptions, convergences et limites, un aspect central de l'approche consiste à recueillir plusieurs lectures indépendantes autour de la même personne, puis à observer les points communs, les divergences et les zones floues, en multipliant les intervenants. L'auteur suggère que des convergences pourraient renforcer la crédibilité de certaines informations, tandis que des contradictions inviteraient à la prudence. Ce choix place le lecteur dans une posture d'analyse, quelles déclarations sont suffisamment spécifiques pour dépasser le général, lesquelles peuvent s'appliquer à de nombreuses histoires, lesquelles relèvent d'une interprétation a posteriori. Le livre travaille ainsi la frontière entre preuve et impression, en montrant comment un récit peut se construire à partir de fragments. Cette comparaison met aussi en évidence un problème récurrent du genre, la difficulté de valider dans un cadre non expérimental strict, ce qui relève d'une donnée objective et ce qui relève d'un ajustement narratif, sans prétendre résoudre définitivement ces tensions pour tous les lecteurs. L'ouvrage a le mérite de les rendre visibles et de rappeler que la force d'une démonstration dépend autant des conditions de recueil que de la manière dont on évalue les correspondances. Quatrièmement, une posture de journaliste face à l'extraordinaire. Stefan Alix revendique une identité de journaliste et inscrit son travail dans la continuité de ses projets autour des expériences extraordinaires. Dans ce livre, cette posture se manifeste par le souci de décrire un protocole, de restituer des échanges et de revenir aux faits disponibles. Toutefois, le texte conserve une tonalité personnelle, car la question de l'après-vie est présentée comme une interrogation majeure qui traverse son parcours. Cette combinaison crée une tension féconde, l'enquête cherche à rester accessible et structurée, tout en assumant que le sujet touche à l'intime et au sens. Le lecteur est invité à suivre non seulement des résultats, mais aussi un cheminement, avec ses doutes, ses attentes et ses limites. C'est précisément ce positionnement qui distingue l'ouvrage d'un traité ésotérique pur, mais aussi d'une réfutation sceptique systématique. Le livre se situe dans un espace intermédiaire, il veut interroger la possibilité d'une survivance de la conscience sans se contenter d'un argument d'autorité, même pour un lecteur critique. Cette posture peut nourrir une réflexion sur ce que signifie enquêter quand les objets étudiés sont incertains et quand la preuve dépend de critères discutés, en dernier lieu. Deuil, sens et rapport à la mort, au-delà de la question factuelle de savoir si une communication est réelle, la preuve explore ce que cette hypothèse fait au vigeon. Au vigeon, les thèmes du deuil, de la continuité des liens et du besoin de sens traversent le livre, notamment parce que l'expérience est adossée à une disparition violente. La médiumnité y apparaît comme un possible outil de réassurance, mais aussi comme un terrain risqueux, exposé aux illusions et aux attentes. L'intérêt du texte réside alors dans le déplacement du débat, la demande de preuves cohabite avec une quête existentielle, celle de réduire la peur de la mort et de transformer la relation à l'absence. Le lecteur peut y trouver une cartographie des émotions typiques face à la perte et une manière de réfléchir à ce qui, dans les récits sur l'après, répare ou fragilise, en tenant ensemble le besoin de croire et l'exigence des discernements. L'ouvrage invite à une vigilance intérieure, distinguer ce qui apaise durablement de ce qui ne fait que combler un vide sur le moment. Cette articulation entre enquête et vécu rend le livre pertinent pour qui souhaite penser la mort sans détourner le regard. En conclusion, La preuve les morts nous parle conviendra au lecteur attiré par les enquêtes sur l'après-vie, la médiumnité et les questions de conscience, mais aussi à ceux qui, sans adhérer, veulent comprendre comment se construit une démonstration dans ce champ. Les personnes touchées par un deuil peuvent y trouver un espace de réflexion sur la persistance du lien, sur la manière dont un récit peut aider à traverser l'absence, et sur les précautions à garder face aux interprétations, sur le plan intellectuel. Le livre offre un bénéfice clair, il rend visibles les critères que chacun mobilise pour juger du vrai, du plausible et du signifiant, et montre à quel point la preuve dépend du protocole, du langage et de la validation. Dans sa catégorie, l'ouvrage se distingue par l'usage d'un cas concret et par la comparaison de plusieurs intervenants, plutôt que par une simple compilation de témoignages. Il se démarque également par la présence d'une dimension humaine marquée, qui évite que le sujet reste une abstraction, même si certains lecteurs resteront sceptiques quant à la solidité de la preuve. La démarche peut servir de point de départ solide pour un dialogue plus exigeant entre curiosité spirituelle, esprit critique et expérience du deuil. Si vous souhaitez soutenir Stéphane Alix, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.